je vais commencer. D'abord, je veux dire mes remerciements à Madame Anne-Marie Bertrand de m'avoir accueillie ici et de m'avoir accueillie aussi aux presses de l'ENSIP. C'est un grand honneur pour quelqu'un qui n'est pas historienne, qui est simplement angliciste, qui a fait une carrière à l'Université Paris 7, dans laquelle j'ai évolué progressivement de la littérature vers l'histoire du livre. Domaine qui était considéré comme vraiment marginal, curieusement, parce que on enseignait la littérature sans tenir compte de la façon dont les livres étaient publiés. Ça m'a pas empêché de persévérer et d'axer de plus en plus ma recherche sur ce domaine du livre et de l'édition en Grande-Bretagne, essentiellement. Et au XIXe siècle, de préférence, même s'il m'est arrivé d'aller voir un petit peu avant ou après. J'ai pu créer un groupe de recherche sur ce sujet qui m'a encouragée. Il y a beaucoup de recherches qui s'est développée pendant la fin de ma carrière en Grande-Bretagne, aux États-Unis, sur l'histoire du livre, la recherche dans ce domaine, et où j'ai été très bien accueillie et où j'ai eu des contacts tout à fait remarquables avec toutes sortes de personnalités de ce monde d'historiens du livre. En Angleterre, les historiens du livre ne sont pas forcément des historiens. En France, ils le sont, ou ils sont chartistes, ou ils sortent de l'ENSIB, ou bref, ils ont des tas de casquettes que je n'ai pas. Mais en Angleterre, c'est beaucoup plus facile parce que beaucoup d'historiens du livre viennent du secteur littéraire, viennent des études littéraires, ce qu'ils appellent Englit, c'est-à-dire English Literature. Donc c'était facile d'avoir des contacts, et puis j'ai eu des rencontres en particulier avec une personnalité de la British Library, de la Bibliothèque Nationale de Londres, qui est un grand monsieur dans ce milieu de l'histoire du livre, qui s'appelle Ian Willison, qui est un monsieur un peu en fin de carrière, c'est le moins qu'on puisse dire, il a largement plus de 80 ans, mais il continue à écrire et j'ai mis à profit justement un article qui vient de m'adresser par email. Il est en train de rassembler tous ses papiers, comme on dit, papers, ses communications pour un volume qui restera après lui. C'est dans ce contexte aussi que, heureusement tout de même, dans mon université, qui était le département d'anglais, l'université Paris 7, maintenant Paris Diderot, le département d'anglais qu'on appelle souvent Charles V, parce que c'est rue Charles V dans le Marais, ce département a tout de même accepté, enfin, ne soyons pas parano quand même, j'ai pu tout de même publier dans le cadre de ce département deux numéros des cahiers Charles V, la revue du département, qui, en 1988, où là vraiment j'ai commencé à m'affirmer comme dans ce domaine, qui s'appelait Le Livre Aujourd'hui, et traitait non seulement de la Grande-Bretagne, mais aussi de l'Irlande et des États-Unis. Et puis, plus récemment, le numéro 32 s'appelle Histoire de livres, avec le S d'histoire entre parenthèses, le livre et l'édition dans le monde anglophone, pour lequel j'ai eu la grande chance d'avoir une préface de Roger Chartier. Je suppose que ce nom ne vous est pas inconnu. Ce numéro-là a été publié en 2002. Alors pourquoi de là suis-je passée à la lecture vraiment? Parce que histoire du livre, histoire de l'édition, on peut papillonner, j'ai pas mal papillonné, j'ai fait un article sur les rapports de lecture des éditions Macmillan, j'ai fait des études sur les éditeurs de Kipling, etc., etc. Il y a différentes manières de traiter ce sujet, il est très vaste, c'est un domaine immense, qui, comme l'écrit Anne-Marie Bertrand dans la préface de son livre, d'introduction de son livre, croise énormément, trois au moins, plusieurs domaines, histoire culturelle, histoire sociale, histoire politique, histoire des idées, histoire littéraire, etc. Mais pourquoi la lecture ? Alors la lecture, effectivement, progressivement, devient, dans le domaine des cercles que je fréquente, si vous voulez, la lecture prend beaucoup d'importance, il y a eu beaucoup d'ouvrages publiés, il y a eu beaucoup de colloques sur ce sujet, et il y a quelque chose que j'aimerais mentionner, je ne crois pas avoir mentionné dans le livre, qui s'appelle Reading Experience Database, ça veut dire donc établissement d'une base de données sur l'expérience de la lecture, qui est un projet complètement fou, puisqu'il s'agit de recueillir le maximum d'informations sur la manière dont les gens lisaient, ou comment les gens manipulaient, utilisaient, concevaient, regardaient leurs livres à partir des annotations qu'on trouve, manuscrites qu'on trouve sur les livres. Alors c'est une base de données que vous pouvez aller consulter. Il y a une réunion bientôt la semaine prochaine où j'espère aller faire un tour. Où ils en sont, ils ont réussi à avoir un financement très important. Je trouve ce projet à la fois passionnant et à la fois un peu étonnant, parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces données qu'on aura rassemblées? Enfin, en tout cas, on ne peut pas les décourager. Donc ça a été, à la suite de ça, il y a eu un colloque extrêmement intéressant il y a 2 ans, je crois, l'été, juillet 2009, ce qui sur la lecture et en relation avec cette base de données. Je suis aussi venue à la lecture en raison d'un cours que j'ai donné à l'Université Paris 7, cette fois-ci non dans le département d'anglais, mais un cours ouvert aux non-spécialistes du premier cycle, des étudiants de premier cycle de tout le secteur lettres et sciences humaines, dans lequel, au départ, je parlais de l'édition et de la lecture en Grande-Bretagne, et finalement, l'édition anglaise étant de plus en plus... étant de plus en plus assimilé ou en tout cas lié à l'édition américaine, j'ai abandonné cette partie-là. Une de mes collègues a fait le cours sur l'édition américaine et j'ai donc fait un cours sur la lecture en parallèle avec une sociologue de la lecture, Marie Kuhlmann, qui faisait le même cours que moi sur la France. Donc on a fait en parallèle l'histoire, c'est beaucoup dire, quelques repères sur la lecture en Grande-Bretagne, de mon côté, et elle sur la France. Donc pour mettre en parallèle l'évolution, par exemple, de l'alphabétisation, qui n'est pas la même d'un côté et de l'autre de la Manche, et puis les bibliothèques, etc., tous les aspects de la lecture. Donc j'ai été, évidemment, quand je me suis trouvée à la retraite, je me suis rendu compte que j'avais accumulé beaucoup de choses dans ce domaine et que je trouvais un peu dommage de ne pas en faire un livre. Et j'ai donc pu, heureusement, grâce à l'ENSIB, aux presses de l'ENSIB, faire ce livre. Ce livre, je l'ai appelé Une nation de lecteurs, j'allais le dire en anglais. A Nation of Readers. D'ailleurs, il y a eu au moins deux ouvrages ou des articles qui utilisent ce titre, cette expression, mais heureusement pas, pour la période qui me concerne, pas en français. Donc, j'ai considéré que je pouvais parfaitement l'utiliser. Pourquoi une nation de lecteurs avec un point d'interrogation? Tout le monde ne peut pas savoir, surtout quand on n'est pas angliciste, qu'au XIXe siècle, à l'époque victorienne, les Anglais étaient qualifiés l'Angleterre était qualifiée de nation of shopkeepers, c'est-à-dire nation de commerçants. C'était les grandes époques du succès commercial, industriel de la Grande-Bretagne. Donc on leur avait donné ce titre, cette appellation, pas tout à fait flatteuse. Mais qui donc est parodié dans l'expression « une nation de lecteurs » que j'ai reprise. Ceci m'amène aux autres éléments du titre, c'est-à-dire la question de la période. Alors c'est toujours très difficile de délimiter une période, tous les historiens vous le diront. Je me suis amusée à regarder dans tous les livres qui couvraient à peu près la même période comment c'était découpé, et c'est jamais découpé de la même manière. Et il y avait deux choses que je voulais, les deux dates, les deux bornes m'importaient. La première, parce que 1815, ce n'est pas encore l'époque victorienne, mais c'est déjà l'époque, post-guerre napoléonienne. 1815, c'est Waterloo, donc c'est la fin des guerres napoléoniennes, et c'est donc un repère qui est souvent utilisé en histoire culturelle en particulier, mais pas seulement. 1945, bon, il est évident que la date ne vous est pas, n'est pas mystérieuse pour vous. Ça faisait assez long d'aller de 1815 à 1945, mais ça m'importait parce que j'ai toujours été fascinée par l'attitude des Britanniques, des Anglais, par rapport à la lecture, par rapport aux bibliothèques, pendant les périodes de guerre, pendant les deux guerres mondiales. En plus de ça, j'étais aidée, je dois l'avouer, pour mes sources, par un livre publié par une amie qui s'appelle Valérie Holman, qui était justement consacré à l'histoire du livre et de l'édition et de la lecture pendant la Seconde Guerre mondiale, un livre qui s'appelle Print for Victory, imprimé pour la victoire, si je traduis littéralement. Et dernier élément, pourquoi l'Angleterre et non la Grande-Bretagne? C'est un problème auquel on se heurte tout le temps. Et Dieu merci, j'avais trouvé deux références qui m'ont permis, que j'ai utilisées et que j'ai citées, qui étaient que, d'une part, pendant très longtemps, on a dit Angleterre et pas Grande-Bretagne. C'est-à-dire que pour beaucoup, en particulier pour beaucoup de francophones, de français et autres, l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne, on ne se pose pas vraiment la question. Et par ailleurs, il m'apparaissait nécessaire de ne pas entrer dans les particularismes. Et mon gros problème, c'était surtout l'Écosse, si vous me permettez de formuler les choses de cette façon. L'Écosse a été extrêmement à l'avant-garde en matière d'éducation, d'enseignement, en matière d'alphabétisation. Et donc, si j'ai fait allusion quelquefois, je ne me sentais pas capable de mener de front quelque chose qui concernerait l'Angleterre. Alors, je ne parle pas du Pays de Galles. Qui me permettrait de mener de front l'Angleterre et l'Écosse. Bon, quant à l'Irlande, c'est vraiment un monde tout particulier. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, au contraire, mais c'est un monde aussi que je ne connais moins bien. Une culture qui a tout de même beaucoup de particularismes dans lesquels je ne pouvais pas entrer. Donc voilà l'explication du titre, Une nation de lecteurs, la lecture en Angleterre, 1815-1945. Je ne vais pas vous retracer le livre, je voudrais simplement, qui donc suit un parcours chronologique en quatre périodes, je voudrais essayer de dégager ce qui me paraît les traits saillants, ce qui me paraît important. Ça va être un peu difficile parce qu'il y a énormément de choses que je voudrais vous dire, je vais essayer d'être clair. Et je voudrais montrer donc les spécificités de la lecture en Angleterre. Et je voudrais montrer aussi les perspectives que cette lecture anglaise offre. Je commencerai par un terme clé, qui est un terme qu'on peut traduire par alphabétisation, qui s'appelle literacy, L-I-T-E-R-A-C-Y. On dit, je crois, quelquefois, littératie maintenant en français. J'ai entendu dire, oui. Voilà. Ben, vous voyez, Et donc, si vous voulez, il était évident qu'on ne pouvait pas parler de lecture sans parler d'apprentissage de la lecture. Donc c'est un des axes que j'ai développé et j'ai essayé de suivre le développement d'alphabétisation en Angleterre tout au long de la période considérée. Bien évidemment, l'Angleterre est un pays protestant. Or, on a constaté que dans les pays protestants, l'alphabétisation se faisait plus rapidement, de manière plus systématique, pour permettre la lecture du livre à la base du protestantisme, c'est-à-dire la Bible. Et je cite Elia Lévy, l'historien, qui écrit que le protestantisme est une religion du livre, une religion réfléchie et sérieuse. Il exige de tout chrétien digne de ce nom qu'il sache lire afin de connaître la Bible. Il est, dans cette mesure, propice au développement, sinon de la haute culture, tout au moins de l'instruction populaire. Donc vous voyez bien que je ne pouvais pas... c'était important d'insister sur le développement de l'alphabétisation. Ce n'était pas la religion n'est pas la seule raison pour laquelle il fallait apprendre à lire. On a parlé, je vous ai évoqué l'expression « nation de commerçants ». Au cœur de ma période, il y a l'époque victorienne. Victoria monte sur le trône en 1837 et elle le quitte en 1901. Et donc, vous savez bien que... je déborde sur cette période. Mais malgré tout, l'époque victorienne est au centre de mon étude et... C'est une période où l'Angleterre est à la pointe du progrès économique, à la pointe de la réussite commerciale et industrielle, au moins jusque dans les années 70, parce qu'après 70, les États-Unis et l'Allemagne vont venir la concurrencer. Mais disons que il paraissait important pour les dirigeants, pour l'État et pour un certain nombre d'industriels, des nouveaux industriels, il paraissait important que les employés, les salariés, les ouvriers, les personnes impliquées dans les métiers, différents nouveaux métiers, aient une compétence de lecture minimale. Donc, si vous voulez, il ne faut pas négliger ce contexte économique qui fait que, parallèlement au contexte religieux, on va voir se développer des actions d'alphabétisation, aussi bien émanant d'organisations religieuses que d'organisations sociales ou sociopolitiques, si l'on veut. Pourquoi cela ? Parce que l'Angleterre est très en retard au point de vue éducatif, au point de vue de l'enseignement. La loi instituant l'enseignement obligatoire, l'éducation obligatoire, date de 1870. Vous voyez qu'on était loin du compte. Donc, ce sont pour beaucoup les organisations religieuses, même prioritairement les organisations religieuses, et on trouve en particulier l'évangélisme, dont on a beaucoup parlé récemment à cause des États-Unis, mais ce courant évangéliste, c'est vraiment démené, a fait un travail considérable de diverses manières pour permettre aux jeunes Anglais, ou même pas seulement aux jeunes, à la population anglaise en son ensemble, surtout masculine peut-être, d'apprendre à lire. Et on a donc vu apparaître, en particulier, je vais être forcément limité dans mes références, on a vu apparaître ce phénomène des Sunday schools, des écoles du dimanche, qui a été absolument important, primordial dans l'alphabétisation de la population. Sunday school, ça veut dire que le dimanche, qui était le seul jour où on ne travaillait pas, puisque de toute façon, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Sunday is closed, je ne sais pas si vous avez connu à une époque l'expression qui faisait rire, qui nous faisait tous rire. Enfin, moi, quand j'étais jeune, on allait en Angleterre, rien n'était ouvert le dimanche, parce que justement, c'était le jour du Seigneur, qu'on restait chez soi ou qu'on allait au temple, etc. Donc, c'était l'occasion rêvée. Ce jour était le jour idéal pour encadrer les personnes qui venaient au temple ou qui venaient dans les réunions religieuses et de leur apprendre un minimum, de leur apprendre un petit peu à lire dans la mesure du possible. Cela dit, on ne peut pas limiter l'apprentissage de la lecture à ce moment-là à ces organismes religieux et aux Sunday School, parce que parallèlement, vous avez bien sûr des mouvements laïcs, des mouvements politiques et sociaux, qui, s'occupant des nouvelles classes, des nouvelles classes populaires, disons, ou de la classe ouvrière, cherchaient à encadrer, des organismes qui ont cherché à encadrer et aussi à instruire cette population. L'une des organisations plutôt la plus célèbre est celle de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle les Mechanics Institutes, je le prononce pas trop à l'anglaise, c'est-à-dire Mechanics à apprendre dans un sens qui est parfois discuté, mais en gros travailleurs manuels, donc des instituts destinés aux travailleurs manuels. Ce qui s'est passé, c'est que si les Sunday School ont à peu près visé le public qu'elles souhaitaient viser, c'est-à-dire vraiment les classes populaires les moins instruites, grâce aux bénévolats, hein, bien sûr, je n'insiste pas là-dessus, vous le devinez bien. Les instituts pour travailleurs manuels, comme on peut les appeler, ont raté leur objectif dans la mesure où ils ont visé trop haut. C'est quelque chose qu'on découvre assez souvent dans l'histoire de la lecture à cette époque, c'est-à-dire que on vise trop haut, et donc l'ouvrier qui a des journées de travail absolument épouvantables n'a pas envie le soir de venir écouter des cours un peu trop pointus et qui supposent justement une certaine facilité de lecture et de compréhension qui n'est pas toujours leur cas. Par exemple, des cours de chimie ou des cours de même de calcul, parce que j'ai parlé de literacy, on a aussi le mot numeracy qui veut dire la capacité à compter, qui est un autre aspect aussi à prendre en considération. Et donc ces organismes ont plus ou moins réussi dans leur objectif. Et il est vrai que l'alphabétisation, j'en parlerai rapidement, ne sera vraiment réalisée que lorsque les lois sur l'enseignement permettront enfin aux enfants d'aller à l'école. Je passe sur toutes sortes de détails. Je vous renvoie à mon livre sur ce qui se passait dans les régions rurales, etc., etc. Chez les industriels, il y a eu beaucoup de il y a beaucoup de philanthropes. C'était bien d'être philanthrope. C'était partie des valeurs de l'époque. Donc il y a eu beaucoup de philanthropes qui ont essayé d'agir dans ce sens. On a pensé pendant longtemps qu'il y avait beaucoup d'autodidactes. C'était quelqu'un qu'on montrait en exemple. C'était vraiment une réussite totale. On y poussait beaucoup les gens des classes, les gens des classes populaires à être autodidactes, si je puis dire. Et en particulier, il y a eu un ouvrage qui a fait date en 1859. Et vous voyez qu'on est déjà un peu tard, 1859. Un livre qui s'appelait Self Help. Qu'on pourrait traduire par « Aide-toi, le ciel t'aidera », il faut s'aider soi-même, il faut se débrouiller par soi-même, qui a été publié par un certain Samuel Smiles et qui, bien évidemment, disait qu'il fallait apprendre par soi-même. Et il y a des romans, il y a des livres qui racontent l'histoire de ces personnalités merveilleuses qui ont par elles-mêmes réussi à s'instruire et à monter aussi dans la société, hein, ce qui est un peu implicite. Ce qui est certain, c'est que de nombreux textes font apparaître tout de même la progression d'un public de lecteurs, l'apparition d'un public de lecteurs plus vaste. Et En 1800, on trouve des témoignages un peu excessifs, à mon avis, idéalisés, en particulier des témoignages qui disent « Tous les ouvriers savent lire, regardez cet ouvrier, entre deux coups de marteau, il va lire un passage, un livre, enfin, il ne faut pas rêver. Hein, » C'était très très bien, ces témoignages sont tout à fait satisfaisants, mais on peut être sceptique, ils sont amusants en même temps. Et on a aussi vu apparaître des articles comme attirant l'attention sur des publics nouveaux. Il y a un article célèbre du romancier Wilkie Collins, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit des romans presque à l'origine des policiers. Un article de lui qui est très célèbre, qu'il a publié dans le journal de Charles Dickens, Household Words, et qui en 1858, et qui parle de The Unknown Public. C'est un article que je trouve très intéressant, très fascinant, j'avais pensé traduire, mais en fait il y a trop de références à des faits très typiques et très particuliers de l'époque. Et il explique qu'il va se promener dans les quartiers populaires de Londres et il découvre des périodiques qui sont là, accrochés à des devantures, et il se dit, mais qui lit ça? Et il décide d'en acheter et il regarde, intéressante source d'information, le courrier au lecteur. Et alors il cite justement les informations qu'il a glanées. Il regrette que dans ces périodiques, il n'y ait pas de lecture très valable, qu'il n'y ait pas de texte littéraire très valable, mais en même temps, il dit à ses contemporains romanciers comme lui, nous avons là un public potentiel qu'il faut exploiter et à qui il faut fournir une meilleure littérature que celle qu'ils ont. On ne sait pas trop comment il s'y prendrait, et beaucoup pensent aujourd'hui qu'en fait, il pense beaucoup à lui quand il dit qu'il faudrait qu'il y ait des romanciers qui écrivent pour ces gens-là. Mais c'est en tout cas un témoignage qu'il y a toute une classe populaire qui lit, et qui lit donc des périodiques pas de très bonne qualité, mais qui lisent quand même. Et on trouve là le débat sur que lire, ou-t-il lire des livres, ne pas lire ce genre de littérature, ou au contraire les lire. Les choses évoluent, hein, et au fur et à mesure, l'affirmation traditionnelle est de dire que l'Angleterre est alphabétisée complètement en 1900. Alors c'est un peu illusoire, et c'est illusoire comme... ça demande à être précisé, plus exactement. Pour deux raisons, à mon avis, je n'en donnerai que deux. La première, c'est celle que donne un historien de la lecture qui s'appelle William Sinclair, qui s'est beaucoup intéressé à ces problèmes-là et dont le livre s'appelle « The Reading Public in the Romantic Period », ce qui veut dire « le public de lecteurs pendant à l'époque romantique ». Ce qui est intéressant, c'est justement la différence qu'il fait avec par rapport à ce qu'il appelle « the literate public ». Literate, c'est l'adjectif qui correspond à literacy, c'est-à-dire celui qui est alphabétisé, mais qui n'est pas forcément un véritable lecteur. Et j'ai une citation, comme elles ont été traduites, que je voudrais vous donner. Il décrit ceci: « La nation des lecteurs était probablement moins nombreuse que la nation alphabétisée, dans laquelle j'inclus de nombreux autres individus, dont la lecture était essentiellement limitée à la lecture de documents commerciaux, de livres de comptes et de lettres manuscrits, en relation directe avec leur emploi et à la lecture de journaux. La nation des non-lecteurs comprenait ces membres de la société dont l'expérience des textes écrits était essentiellement orale et visuelle. » Donc, vous voyez la différence qu'il fait. Et cette différence va dans le sens de ce que j'ai constaté en travaillant sur la période des guerres, c'est que pendant la période des guerres mondiales, on s'aperçoit qu'il y a des soldats qui ne savent pas lire. Donc, cette alphabétisation, cette Angleterre alphabétisée, ou n'a pas perduré, ou n'était pas vraiment réalisée, ou en tout cas de manière stable. Le problème, c'est que si on apprend à lire, vous le savez mieux que moi, sans doute, si on apprend à lire, encore faut-il continuer à lire pour ne pas perdre cette compétence. Or, il fallait donc avoir accès aux livres, et l'accès aux livres était difficile, pour des raisons toutes simples, c'est que le livre était hors de prix, le livre était extrêmement cher, et il était pour quelques raisons que je vais rapidement expliquer, enfin une raison principale, c'est que c'est en fait à cause de Walter Scott, pour caricaturer un peu les choses et disons que je limite un petit peu. Walter Scott, ça vous dit quelque chose, même les plus jeunes d'entre vous. Et donc Walter Scott, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est une très longue histoire. Walter Scott a fini par imposer que les romans soient en 3 volumes. Et c'est pour ça que les romans victoriens ont toujours une longueur et terriblement importante. Il a imposé cela pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà à l'époque, et j'en ai amené aux bibliothèques, il y avait déjà à l'époque des cabinets de lecture, ce qu'on appelait les circulating libraries, qui ne veut pas dire les bibliobus ou quelque chose de ce genre. Circulating libraries, ça veut dire bibliothèque de prêt en fait, dont les livres circulent. Mais on peut traduire par ça correspond tout à fait au cabinet de lecture français. Et donc, bien évidemment, ces cabinets de lecture qui étaient commerciaux, qui étaient des entreprises commerciales, préféraient avoir des livres en 3 volumes, puisqu'on prêtait le livre par volume, que le prix, le coût de l'emprunt, du prêt, était basé sur un volume. Donc ce problème-là a perduré. Alors je vous donne pas trop les prix parce que c'est difficile. La question du prix du livre on s'arrache les cheveux parce que je ne me le suis pas assez arraché probablement, mais c'est très difficile d'avoir des critères concernant les revenus des catégories sociales. Quand on regarde les histoires économiques et sociales de la Grande-Bretagne, on trouve des choses qui ne sont pas toujours cohérentes. Ou pas à la même époque, ou pas à la même région, donc les salaires ne sont pas les mêmes. Mais disons que et puis il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la livre sterling était divisée de manière très compliquée en 20 shillings, le shilling étant lui-même divisé en 12 pennés. Donc pour arriver à des calculs simples, c'est compliqué. Les livres de Scott et les romans victoriens jusqu'en 1894 à peu près étaient le plus souvent, pas toujours, hein, mais le plus souvent publiés en 3 volumes à ce prix exorbitant. Donc, seuls les cabinets de lecture pouvaient les acheter. Donc, on voit que, bien sûr, donc, il y a ce problème du prix qui fait que tout au long de l'histoire de la lecture en Angleterre, on va trouver des rééditions bon marché. On va chercher un moyen de court-circuiter les choses. On essaye On a aussi la période, on publie en fascicule, le fascicule étant moins cher, étant accessible, on peut acheter un livre en petit bout. Ça, c'est pas nouveau, hein, vous savez ça, en livraison, si vous voulez vous appeler ça en français, je crois, plutôt. Et puis, vous avez les feuilletons dans les périodiques, mais encore faut-il acheter le périodique. Et puis, vous avez aussi... mais il faudra vraiment attendre les rééditions. Les rééditions apparaissent assez vite, mais ce sont d'abord des rééditions d'auteurs classiques, au sens anglais, enfin, je veux dire, classiques au sens de... Non, pas au sens anglais, justement, pas les auteurs latins et grecs, mais auteurs canoniques. Et il faudra attendre assez longtemps, à partir de la deuxième partie du... Oui, largement dans la deuxième partie du 19e siècle, l'apparition d'un type de livre très célèbre qu'on a appelé les yellowbacks, parce qu'ils avaient le dos jaune. Yellow, jaune, back, le dos. Là, enfin, c'est la couverture. Et puis plus tard, les paperbacks, avec l'arrivée, les livres de poche, avec l'arrivée, en 1935, de Penguin. Je vais très vite, hein, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Mais en gros, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à travers l'histoire de la lecture en Angleterre, on aperçoit cette préoccupation constante de fournir des livres bon marché aux lecteurs. Donc des fascicules. Et dès le tout début du 19e siècle, d'ailleurs, on voit une évangéliste célèbre qui s'appelle Anna Moore, H-A-2-N-A-H, et Moore, M-O-R-E, qui balançait des fascicules peu chers, mais elle est évangéliste, donc très imprégnée de culture religieuse. Et puis, parallèlement, du côté laïque, puisqu'on a un peu toujours les deux côtés, l'apparition des de tout ce qui est penné quelque chose, penné magazine, penné encyclopédie, je le dis en français. Et on s'aperçoit que le penné est souvent la limite de ce que peut dépenser un ouvrier ou quelqu'un d'une classe populaire pour ses lectures. Si bien qu'on arrivera à avoir je mélange un peu tout ce... C'est pas très chronologique, mais c'est pas très organisé, mais je voudrais mentionner tout de suite à cette occasion les penny readings, qui sont des lectures collectives où on paye un penny pour avoir le droit d'entendre lire ou d'entendre lire un texte, un journal, ou d'emprunter un journal pour une lecture rapide. Donc le penny, si vous voulez, par rapport, alors j'aurais dû faire le calcul dans une livre, il y a combien de penny, je ne pourrais pas le calculer, j'aurais dû avoir ça présent à l'esprit, mais tant pis. Je ne l'ai pas. Enfin, disons que c'est quand même largement... c'est ce qu'il y a de plus bas. C'est l'unité de base, si vous voulez, quasiment. Il existe des demi-pennés, il existe des quarts de pennés qui s'appellent les farthings, mais grosso modo, c'est quand même ce qu'il y a de plus bas. Et donc, on voit ce genre de choses. Et ce qui est important, ce que je voudrais rattacher à ça, c'est la remarque que fait William Sinclair, déjà cité, qui constate que plus... on est bas dans la société, toute proportion gardée, plus tard vous avez accès à un livre donné. Parce qu'il faut qu'on attende qu'il soit réédité moins cher, dans des formats plus économiques, moins coûteux, pour pouvoir y avoir accès. Donc on attend, c'est un peu le phénomène aujourd'hui, vous allez peut-être attendre, évidemment pas sur la même échelle, vous allez peut-être attendre le poche avant d'acheter le dernier Goncourt. Vous allez peut-être attendre qu'il soit en livre de poche avant d'acheter l'édition on appelle ça, donnez-moi, aidez-moi vous les bibliothécaires, l'édition brochée, voilà, exactement. Donc c'est parce que c'est pas le mot que je voulais, mais ça fait rien. Bien, donc cela étant, autre aspect, plus exactement, que je voulais évoquer par rapport à ce que j'ai écrit et par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est le problème de l'opposition lecture privée-lecture publique, ce qui va m'amener aux bibliothèques. La lecture privée, pendant très longtemps, va se faire à l'intérieur de la famille, pour ce qui est des classes moyennes, les fameuses middle classes qui vont se développer considérablement pendant l'époque victorienne, avec l'accès à la richesse des industriels, de toutes les personnes impliquées dans le commerce et l'industrie. Et en particulier, la lecture le dimanche ou le soir de la Bible, pas seulement de la Bible. Dans le livre, je cite un auteur qui qui décrit de manière tout à fait attendrissante la lecture, la scène familiale de lecture avec la maman qui a la mère de famille qui a le bébé sur les genoux, alors qui fait de la couture ou de la broderie. C'est le père qui lit, les enfants sont assis sagement autour d'eux. Et puis il y a souvent, à l'arrière-plan, dans le fond de la salle, dans le fond de la pièce, les domestiques. Et on s'aperçoit que les domestiques, c'est une population qui s'est alphabétisée et qui s'est cultivée, instruite relativement rapidement du fait de la fréquentation de leur maître. Parce que d'une part, il y avait donc ces séances de lecture le soir. Et puis il y avait aussi le fait que il y avait des livres. Ils étaient dans un environnement où les livres étaient présents. La présence physique du livre était importante. Et on a des statistiques sur les emprunts bibliothèque et bien de lecture des domestiques qui sont extrêmement intéressantes et qui prouvent bien que il y avait là un niveau de lecture et de culture plus important. Du côté des classes populaires, bien entendu, on a la lecture que j'évoquais tout à l'heure, genre du type penny reading, mais vous avez aussi dans les cafés, les coffee houses, vous aviez des lectures, ou vous aviez en tout cas à votre disposition des journaux. Et on a le phénomène traditionnel qu'on a en France également, de quelqu'un qui sait lire, qui va lire aux autres. Aussi bien dans les familles où on peut avoir un enfant à la campagne qui a appris à lire miraculeusement et qui va lire à ses parents et à ses frères et sœurs, ou dans les cafés des ouvriers qui se retrouvent et qui vont bien entendu profiter d'une lecture orale, une lecture à haute voix. Alors le problème, c'est que donc on est toujours, je reviens sur le fait que le livre est cher, qu'on essaye de trouver des solutions pour faire acheter des ouvrages imprimés qui ne soient pas trop chers, mais bien sûr, la meilleure solution, c'est la bibliothèque. Alors, j'ai déjà parlé des cabinets de lecture, mais je n'ai pas encore parlé des bibliothèques publiques. Il a fallu un certain temps avant que l'Angleterre prenne conscience de ses lacunes en matière, oui, de ses manques en matière de bibliothèques publiques. Et la loi qui a permis d'arriver à la création des bibliothèques publiques, qui est donc de 1850, a pris un certain temps, un certain nombre de commissions, un certain nombre de livres blancs, on connaît ce genre de choses, ça a toujours existé, avant que vraiment la décision soit prise. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle important, c'est un philosophe qui s'appelle Thomas Carlyle, ça vous dit peut-être quelque chose, qui a été tellement écœuré par le fait qu'il n'y avait pas de bibliothèque, qui n'a cessé de dénoncer la situation, et qui a fini par écrire quelque chose que je voudrais là aussi vous citer. Si on laisse de côté toutes les autres institutions, le British Museum et les cabinets de lecture, une vraie bonne bibliothèque de livres, digne de ce nom, manque cruellement dans cette grande ville de Londres. Il n'existe aucun autre lieu dans le monde civilisé, carrément, il y a eu des enquêtes d'ailleurs faites sur les autres pays d'Europe, il n'existe aucun autre lieu dans le monde civilisé qui soit si mal approvisionné en ouvrages de lecture pour ceux qui ne sont pas riches. Donc sa position, il était plutôt, pas socialiste, mais enfin, disons qu'il avait des idées sociales relativement progressistes. C'est véritablement pour nous une sorte de déshonneur et nous devrions nous associer pour y mettre un terme avec toute la promptitude qui convient. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé une bibliothèque qui est la seule survivante des bibliothèques commerciales de l'époque, qui s'appelle la London Library. Comme son nom l'indique, c'est la bibliothèque de Londres. Elle est dans Londres, pas très loin de Piccadilly. Je vous inviterai bien à y aller si vous avez l'occasion, sauf que, étant privée, elle est hors de prix. Alors, je ne vous donne pas les tarifs des adhésions, c'est quelque chose de faramineux. On peut adhérer pour la vie, mais là, il en va de plusieurs milliers de livres sterling, même quand, suivant l'âge qu'on a, évidemment. Ils ont heureusement eu l'idée d'ouvrir quelques samedis pour faire visiter, et j'ai eu la chance d'être à Londres, de découvrir que justement il y avait un samedi où je serais à Londres et je pourrais la visiter. C'est un monument, c'est extraordinaire, c'est assez curieux, c'est classé en dépit du bon sens, les livres sont classés, mais vous imaginez pas comment. Surtout vous, ça vous passionnerait sûrement encore plus que moi. Et c'est une bibliothèque qui est très fréquentée encore. Moi, j'ai plusieurs amis qui y sont, évidemment, qui sont londoniens. Mais je pourrais facilement m'y inscrire parce que je suis autorisée à sortir les livres. C'est une bibliothèque de prêt, donc on peut sortir les livres et je peux même les emporter en France. Je peux même les envoyer et les recevoir par la poste, ce qui me paraît un risque relativement pas complètement mineur. Mais enfin voilà. Donc ça, c'était une survivance. C'est intéressant parce que c'est vraiment la survivance de ce qui s'est passé au milieu du 19e siècle, parce que la London Library a été créée en 1841. Donc, vous voyez, bien avant, 9 ans avant qu'enfin on ait la loi des bibliothèques publiques. Et sinon, les cabinets de lecture, évidemment, faisaient florès. Il y en a au moins deux qui sont célèbres. L'un qui, moi, me fascine, qui s'appelle Charles Mudie's Select Library, du nom de son propriétaire, Charles Mudie, M-U-D-I-E, qui était un commerçant absolument incroyable, qui a monté un cabinet de lecture où tout le monde se précipitait, en particulier, quand je dis tout le monde, les classes moyennes se précipitaient, qui a justement tout fait pour que le roman en 3 volumes reste le format de base, qui s'est développé à travers l'Angleterre avec des livraisons en province, qui a eu des... Alors, les seules archives qui restent et sur lesquelles je suis en train de travailler sont les catalogues. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns à Londres et, miracle, il y en a quelques-uns à Paris, à la BNF. Et il y a entre autres des catalogues de littérature étrangère, c'est-à-dire de livres dans la langue d'origine, en français, en allemand, en italien au début. Puis, vers la fin de l'existence de cette bibliothèque, qui fermera en 1937, on a aussi des ouvrages en suédois, en espagnol, etc. etc. Ce personnage a complètement a verrouillé, en quelque sorte, la production romanesque en Angleterre, et il a joué un rôle de censeur qui m'amènera à dire bientôt quelques mots sur la censure. Il fallait, bon, je peux le dire tout de suite d'ailleurs, c'est plus simple. Il criait très nettement que ses livres étaient tout à fait corrects, pouvaient être lus par les jeunes filles. On parlait de young person à l'époque, la jeune personne. Et j'ai eu la chance de trouver autre miracle à la BNF dans les archives de plomb. Pourquoi, j'en sais rien, et j'aimerais bien savoir pourquoi. Une petite publicité. Des livres de Mudie avec une charmante illustration et où il y a marqué « Livre à mettre entre toutes les mains ». Donc voilà, c'était la base de cette bibliothèque qui était un pouvoir tel, ce qu'il faut que je vous indique quand même par des chiffres, quand un roman ou un livre important paraissait, par exemple l'histoire de Macaulay, l'histoire de l'Angleterre de Macaulay, ou bien les romans de romanciers dont les noms ne vous sont peut-être pas inconnus, comme George Eliot, il achetait 500 exemplaires de l'ouvrage. Une bibliothèque avec 500 exemplaires d'un ouvrage. Ça fait rêver, je ne sais pas si ça fait rêver vraiment, mais enfin, c'était quand même impressionnant. Il y a des descriptions de la bibliothèque où les murs sont en fait décorés par ces ouvrages qui sont bien sûr reliés, donc qui sont en couleur et qui sont vraiment des monuments. Enfin, c'est vraiment un phénomène culturel extrêmement intéressant. Plus connu et quelque peu différent, est le cas de Smith, W.H. Smith, qui lui aussi a embrayé le pas, mais lui avec les kiosques de gare. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que dans les kiosques de gare, il prêtait des livres. Donc il n'était pas seulement vendeur de livres, comme on peut le voir aujourd'hui, mais les livres pouvaient être empruntés. On arrivait à la gare, on empruntait un livre, on arrivait à Glasgow ou à Liverpool et on pouvait rendre son livre dans le kiosque de gare de Monsieur Smith sans problème. Et ça a été aussi là un phénomène important. Il a été aussi un peu censeur, moins qu'on puisse dire. Comme Mudie, il a aussi défendu la bonne moralité. Mais c'est quand même Smith qui a été liée à l'apparition et au développement des collections qu'on appelle Railway Library, que je ne traduirai surtout pas par bibliothèque de gare, mais au sens de collection, library cette fois-ci au sens de collection d'ouvrages à lire dans le train, qui étaient donc ces fameux yellow bags dont j'ai déjà parlé précédemment, c'est-à-dire à couverture cartonnée jaune, très illustrée, et souvent avec beaucoup de publicité, parce que, parenthèse, tout ce qui a permis de rendre les livres moins chers, ça a été l'inclusion de la publicité, chose qu'on n'a jamais vue en France. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous montrer les fascicules des romans de Dickens publiés dans diverses, publiés à l'époque, où effectivement on a de la publicité aussi bien pour des meubles, pour des médicaments, pour du chocolat, pour toutes sortes de choses, des parapluies, et quelquefois liées au récit, c'est-à-dire que j'ai une collègue qui a fait un livre sur cette question qui est assez amusant, où elle met en évidence le fait que la publicité qui apparaissait dans un numéro correspondait à la saison. Donc en automne, on parlait des parapluies, des manteaux bien chauds, etc. Et puis au printemps, on parlait d'autre chose. Donc ces cabinets de lecture ont perduré après la loi de 1850, qui, comme je vous l'ai dit, a vu l'ouverture des bibliothèques publiques. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les bibliothèques publiques ont mis énormément de temps à s'implanter. Les gens s'en méfiaient. Disons les gens, quand je dis les gens, je devrais dire les classes moyennes s'en méfiaient. Donc c'était considéré, puisque c'était gratuit, c'était forcément, on dirait aujourd'hui, trash. C'était forcément de mauvaise qualité. Donc, on n'y allait pas. En plus, ces bibliothèques ne pouvaient se créer qu'à condition que la municipalité d'une ville d'une taille suffisante, je ne sais plus quel est le chiffre exact, 300 000 habitants, quelque chose comme ça, 30 000 habitants, à condition que la municipalité ait accepté de voter une taxe supplémentaire au départ d'un demi-penné, je vous ai dit que le penné c'était vraiment une somme très faible, plus tard d'un penné, et pendant très longtemps, les bibliothèques publiques n'ont pas pu se développer, même acquérir les livres, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. En plus, cet argent-là n'était pas destiné à acquérir les livres. Et la constitution des fonds était aussi quelque chose qui demanderait à être étudié assez en détail. Ce qui apparaît, c'est que dans les catalogues de Charles Mudie que je vois, que je constate, que j'examine, je vois des publicités de Mudie qui est prêt à brader, à vendre à bas prix les livres qui ne lui servent plus, qui ne sont plus demandés par les lecteurs de sa bibliothèque, aux nouvelles bibliothèques publiques par paquet de 100 ou de... Alors, quand on regarde les titres, on s'aperçoit que ce n'est pas la meilleure littérature qui est évidemment... Quand on solde des livres comme ça, ce n'est pas toujours les meilleurs. Et donc, ces bibliothèques ont mis énormément de temps à se développer. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais vous pourrez les trouver. Et donc, du coup, les cabinets de lecture ont continué. Les cabinets de lecture ont perduré. Il en est apparu au moins un autre qui est resté célèbre. C'est celui dont le nom vous dira quelque chose si vous n'êtes jamais allé en Angleterre. C'est Boots Circulating Library. Boots, c'est le pharmacien. Et c'était un pharmacien qui, lui, a eu l'idée de faire un prêt de livres, d'organiser un prêt de livres payant dans ses pharmacies. On vient acheter de l'aspirine et en même temps on emprunte un roman. Et c'est donc un phénomène tout à fait intéressant, parce que c'est vraiment, il faut très longtemps avant que les bibliothèques publiques vraiment soient installées. Et aujourd'hui c'est le cas, et on en reparlera, j'en parlerai en terminant. Autre phénomène que je voudrais signaler à propos de ces bibliothèques, c'est que dans les périodes de crise, évidemment, le livre est cher. Donc, dans les années 1930, c'est-à-dire au moment de la crise de 29, enfin, les années suivant la crise de 29, on voit apparaître des petites bibliothèques de prêt minables qui s'appellent les top-nés. Tout, ça veut dire tout penné, c'est-à-dire deux pennés, c'est-à-dire pas grand-chose, bibliothèque de prêt. Et il y a un roman de George Orwell, dont le nom ne doit pas vous être inconnu, dans lequel il décrit une de ces bibliothèques fréquentée par des gens du quartier, où on emprunte plutôt peau des livres du genre polar, roman policier, roman d'amour, roman sentimental. Il y a une scène assez amusante dans ce livre où il décrit les personnages qui viennent emprunter les livres. Et ce phénomène n'a pas été, n'est pas négligeable hein, dans les années 1930. Et je dois dire, c'est une des découvertes que j'ai faites grâce à la rédaction de ce livre. Bien évidemment, voudrais parler rapidement du débat autour de la lecture. Bien évidemment, j'ai fait allusion déjà à la censure. Le débat sur la lecture et sur l'importance de la lecture et sur la nécessité d'apprendre à lire à toutes les couches de la population a traversé toute la période ou presque, enfin au moins jusqu'aux années 70, avec un sérieux contrôle des lectures. Et le débat, bien sûr, bien connu, lire, ça ouvre l'esprit, ça permettra d'avoir une population plus active, plus efficace, plus compétente. Et inversement, attention, danger, la révolution de 48 en plus a fait très peur, donc attention, vous allez leur donner des idées révolutionnaires, faut pas qu'ils sachent lire, surtout pas, ne leur apprenez pas à lire. Et à côté de ça... aussi, enfin, et autour de ça se greffe l'idée de respectabilité. Pour moi, respectabilité, bon, c'est pas moi qui le dis, mais d'autres personnes l'ont dit avant moi, respectabilité, c'est le mot clé de l'époque victorienne. L'important, c'est la respectabilité, et c'est bien sûr essentiellement paraître respectable. Être respectable, mais aussi paraître respectable. Et donc, la lecture doit permettre d'être respectable, sinon elle doit aider à être respectable, sinon c'est un danger et il faut mieux la contrôler. Je passe assez vite parce que je vois que le temps tourne et je voudrais rapidement dire quelques mots. Donc la censure s'est exercée de manière assez stricte, surtout dans la période victorienne, considérée toujours comme une période très morale, où la moralité était importante, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais enfin bon, tout de même, c'est en tout cas la façade, l'impression de respectabilité, justement cette façade de respectabilité, la reine Victoria, son mari, le modèle, on se tient bien, on lit pas n'importe quoi, etc. Et, mais aussi, l'autre volet, si vous voulez, par rapport à ce contrôle de la lecture, c'est l'apparition dans le dernier quart du siècle de livres recommandés. C'est un phénomène aussi qui est intéressant. On a des listes de lecture qu'on recommande, les 100 livres qu'il faut avoir lus, pas seulement pour être cultivé, être considéré comme cultivé, mais aussi pour en quelque sorte conseiller au lecteur de ne pas lire n'importe quoi et de lire de préférence les livres recommandés. Il y a un gros organisme qui s'appelle la National Reading Union qui va constituer des listes, mais il y en a toutes sortes de ces listes de lecture qu'on trouve à l'époque. Alors, que lit-on ? D'abord, on lit en fonction de sa classe sociale, et n'oubliez pas qu'en Angleterre, la notion de classe est extrêmement importante, sinon fondamentale. Même encore aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu le débat à propos des origines de la fiancée du prince, qui n'est pas d'un milieu aussi aristocrate qu'on aurait pu le souhaiter. Ça reste un problème considérable. Les Anglais sont capables de discerner l'origine de la classe sociale de quelqu'un par son accent, par sa façon de parler, mais l'accent en particulier. Et on va donc... voir, évidemment, on va voir une production de livres qui va s'adresser aux différentes on va voir une production d'ouvrages imprimés qui vont s'adresser aux différentes classes sociales. Et c'est particulièrement le cas des magazines qui sont extrêmement fractionnés en différentes catégories, les magazines pour la famille, les journaux religieux, les magazines littéraires, les journaux à sensation. Les penny dreadfuls, qui sont une expression connue dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire des publications à sensation, c'est-à-dire un penny, vous voyez qu'on trouve le mot penny encore une fois, et dreadful, ça veut dire qui fait peur, c'est-à-dire des récits d'horreur, des crimes, des affreuses histoires qui paraissent sous des formes diverses, mais surtout souvent dans des périodiques spécifiques, ou aussi tout ce qu'on a pu appeler la street literature, la littérature de la rue, et en particulier ce qu'on a appelé les chapbooks, qui sont des petits fascicules, mais ça c'est plutôt au tout début du siècle, des petits fascicules, des petits livres ou des almanachs qui ressemblent à ce qu'on peut trouver bien sûr ailleurs. Il y a des lectures partagées, bien sûr. La lecture partagée, ce sont des lectures qui vont jouer, qui vont justement mettre en avant la respectabilité. Alors, on a parlé de la Bible. Évidemment, tout le monde lit la Bible, hein, tout le monde doit lire la Bible. Mais vous avez des ouvrages qui... Alors, si vous avez bien sûr les grands auteurs, Shakespeare et compagnie, enfin, pas Shakespeare et compagnie, Shakespeare, Milton, etc., etc. Cela étant... Même Shakespeare a été censuré. Il y a une histoire très intéressante d'un certain monsieur Bowdler, B-O-W-D-L-E-R, qui, dont le nom est resté dans l'histoire parce que « to bowdlerize », ça veut dire « censuré », qui a décidé de réécrire Shakespeare en enlevant tout ce qui était cru. C'est vrai que Shakespeare, il y a certaines pièces, regardez Hamlet, il y a des scènes qui sont quand même extrêmement crues. Donc on a réécrit Shakespeare. Et puis, si vous voulez, il y avait aussi les différents formats, bien évidemment. On proposait des versions non seulement parfois censurées, sinon censurées, ce qui revient au même, édulcorées. Donc on enlevait, on réduisait, on abrégeait et on édulcorait. Et puis, vous avez, bien sûr, je mentionnerai tout de même Robinson Crusoe, qui est un livre qui parcourt l'histoire de la lecture en Grande-Bretagne. Et qui, en Angleterre, je devrais dire, mais qui a connu un succès à nouveau pendant les guerres. Parce que Robinson Crusoe, c'est quelqu'un qui fait face aux difficultés. Et ça, pendant la guerre, ça a été extrêmement important. On sait très bien ce qu'a été le comportement des Anglais sous le Blitz, ça fait les phrases célèbres de Churchill, et si vous allez voir le film... le discours d'un roi, vous verrez que là aussi, au début de la guerre, on a des discours très, très, très admirables d'une certaine manière. Face aux difficultés, on a encouragé ce genre de choses tout au long de la guerre, et je fais allusion des petits livres qui ont été imprimés à cette époque-là, essentiellement centrés sur, qui étaient comme des sortes d'anthologies ou de recueils de citations ou d'extraits d'ouvrages dont on avait choisi les passages qui pouvaient aider justement à tenir bon et à faire face. Je viens d'en trouver deux, je vous les montrerai peut-être si vous voulez. Est-ce qu'ils sont trop beaux ? Je ne vais pas résister. Je viens de les trouver. C'est des petits livres absolument pas chers, agrafés à la main, grands comme ça. Ça ressemble à des pingouins, mais ce ne sont pas des pingouins. Les pingouins, et qui sont des extraits d'ouvrages célèbres, d'ouvrages classiques. Il y a Alice d'un côté, et là c'est un livre d'enfant très célèbre aussi, où il y a toujours en exergue, en premier, quand la victoire sera obtenue, vous aurez de nouveau des livres célèbres dans des éditions populaires. En attendant, gardez à l'esprit les livres qui sont une bénédiction, et cette collection vous introduit à ces livres très connus. Et voilà, donc voilà ce genre de choses qu'on va lire. Donc si vous voulez des livres aussi qui sont très orientés par rapport à la période. Sinon, il faut parler des deux gros axes, des deux principaux, la division, si vous voulez, plutôt habituelle en Angleterre entre fiction et non-fiction. Le mot de non-fiction tend à pénétrer en France maintenant, c'est bien pratique. Fiction, c'est la littérature d'imagination. Comme son nom l'indique, la non-fiction, c'est ce qui ne l'est pas. Et donc, si vous voulez, on a toujours dit le roman, tout tourne autour du roman en Angleterre. On est en train de revenir un peu là-dessus. C'est vrai que je ne peux résister au plaisir de vous citer la citation du romancier Trollope qui, parlant de la... du roman, écrit ceci. Voilà encore une expression intéressante. Nous sommes devenus un peuple de lecteurs de romans. Les romans se trouvent entre toutes les mains, celles du premier ministre jusqu'à celles de la dernière fille de cuisine tout juste engagée. Nous en trouvons dans notre bibliothèque, nos salons, nos chambres à coucher, nos cuisines, et dans nos chambres d'enfants. Nous lisons aussi de la poésie, des livres d'histoire, des biographies et les nouvelles sociales et politiques du jour. Mais le roman l'emporte largement sur toutes nos lectures. Donc ça, c'est écrit dans les années 1860. Et si vous voulez, c'est vrai qu'on a eu tendance à focaliser sur le roman, sur l'importance qu'a eu le roman en 3 volumes, sur l'évolution des bibliothèques, sur la circulation de la culture, etc. Cela dit, il ne faut pas oublier, et comme l'a prouvé un de mes collègues anglais, Simon Elliott, si on regarde les catalogues de la bibliothèque de Charles Moody, on s'aperçoit que la part dévolue à la non-fiction est plus importante que la part de la fiction. Donc il faut revenir un peu sur nos idées. Il faut savoir aussi qu'en Angleterre, il y a des genres qui ont un succès particulier. C'est tout ce qui est livre d'histoire, biographie, parce que les biographies, ce sont des exemples. Lire une biographie, c'est en principe lire la vie de quelqu'un qui a non seulement réussi, mais qui a réussi par sa propre valeur, par ses actions, etc. Et puis, les récits de voyage. Les Anglais voyagent beaucoup, ils vivent sur une île, donc ils sont invités à partir. Il y a le problème du grand tour qui était à la mode au XVIIIe siècle, donc on envoyait les jeunes des classes aisées, bien sûr, faire le tour de l'Europe. Donc tous ces ouvrages-là restent, et ne parlons bien sûr sans oublier les livres religieux, tous ces livres-là sont quand même importants, et donc il ne faudrait pas avoir une vision trop étroite de la lecture de ce point de vue-là. En plus, ces livres de non-fiction ont trouvé aussi leur lectorat pendant les périodes de crise ou de guerre. Bien sûr, on lit des romans pour s'évader, mais parallèlement ou par ailleurs, on lit aussi des ouvrages sur la situation qui permettent de comprendre la situation, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qu'est l'Allemagne, de comprendre ce que c'est qu'une guerre mondiale. Donc si vous voulez, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans ce que j'ai essayé de vous donner, quelques aspects que j'ai abordés. Comme je les ai abordés de manière chronologique, j'ai essayé de les resynthétiser quelque peu. Ce qui est certain, c'est que en Angleterre, en dehors de ce partage entre fiction et non-fiction, il faut aussi signaler l'importance de la presse, la lecture de la presse, si vous avez des journaux qui sont considérables. Et si vous savez pourquoi, et vous avez dû comprendre, ou vous auriez dû comprendre, ou vous allez pouvoir comprendre, pourquoi les journaux du dimanche sont si gros. Parce que ça date du fameux dimanche, où on a le temps de lire. Donc je ne sais pas si vous avez jamais vu un journal du dimanche anglais. Il faut que, si vous ne l'avez jamais vu, il faudrait que vous regardiez quelque part. Même dans les kiosques à Paris, je crois qu'on a à peu près tout. C'est-à-dire que c'est un journal qui comporte toutes sortes de fascicules sur l'immobilier, sur le sport, sur la cuisine, sur la cuisine au sens de la cooking, faire la cuisine, les recettes, etc., la mode, et un petit peu sur, évidemment, les événements. Et puis, ce que je voudrais aussi dire dans ma conclusion, c'est que certes la lecture est devenue privée, qu'on n'a plus, la lecture à haute voix n'existe plus vraiment, encore que il y a un phénomène dont je n'ai pas pu parler parce que ça allait au-delà de la période que j'ai abordée, c'est le phénomène des groupes de lecture, ce qu'on appelle en anglais les reading groups. C'est un phénomène qui a réapparu, qui est tout à fait extraordinaire. Moi, ça me fascine parce que je ne vois pas ça en France. J'ai des amis qui ont essayé de le faire, mais c'est très difficile. C'est quelque chose non seulement d'anglais, mais aussi de plutôt anglophone. Les Américains aussi font ça. On se réunit autour d'un livre. C'est-à-dire qu'on a un groupe de personnes qui peuvent être des gens de la même entreprise ou d'un quartier ou simplement des amis. On se fait un programme de lecture. On se donne un livre à lire. Et on se retrouve pour en parler. Et ça, c'est un phénomène qui n'a jamais pu émerger, je crois, en France, autant que je sache, mais vraiment, je crois que ça n'a jamais pris. Et c'est quelque chose qui est réapparu de manière très forte ces derniers temps. Pourquoi, j'en sais rien. J'ai une amie anglaise qui a fait un livre là-dessus et qui montre que, en fait, les réunions, qui montrent tellement l'importance que ça a pris, que les éditeurs en sont venus à proposer des manuscrits à lire dans ces groupes de lecture pour savoir si ça valait la peine de les publier. Donc vous avez un phénomène vraiment très très particulier. Je ne sais pas si on en est toujours là aujourd'hui où on est en pleine crise, une nouvelle crise économique, mais toujours est-il que les reading groups, c'est quelque chose qui reste un élément non négligeable dans par rapport à la lecture en Angleterre aujourd'hui. Puis je voudrais terminer par l'importance de la lecture en bibliothèque, et je ne peux pas résister à à évoquer ce que écrit, ce qui est écrit par Virginie Malingre, lettre de Grande-Bretagne, par rapport aux bibliothèques. Les bibliothèques restent quelque chose de fondamental dans la vie culturelle anglaise, malgré les chaînes de librairies qui se sont développées, malgré la baisse du prix du livre toute relative. Et elle évoque le fait que elle parle de la vindicte populaire qui va se manifester sur le dossier de la fermeture annoncée de plus de 450 bibliothèques municipales. Et elle ajoute encore une de ces institutions qui fédère les Britanniques de tous horizons. Et elle ajoute, elle raconte que le mot d'ordre avait été donné pour la journée du 5 février, donc qui était une journée de défense des bibliothèques. Le mot d'ordre avait été donné d'emprunter le maximum de livres possibles, histoire de vider les rayonnages. Une sorte de grève du zèle pour retarder autant que possible la fermeture des bibliothèques. On a ainsi vu celle de Newport sur l'île de Wight, envahie par 500 de ses fidèles qui ont retiré plus de 6000 livres. De quoi vous faire rêver, vous, les futurs conservateurs et bibliothécaires. Je vous remercie de votre attention.